C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, décédée il y a exactement 100 ans, aujourd'hui même, à 7h20 le soir, 19h20, à Lisieux dans son monastère. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, décédée à 24 ans, et dont la mémoire est si brûlante dans le monde que déjà aujourd'hui les fêtes sont entreprises pendant plusieurs jours. Les foules vont accourir évidemment à Lisieux pour célébrer celle qui a tant parlé de l'amour de Dieu pour nous, et que la seule solution, c'est de répondre à cet amour et d'aimer. C'est un d'elles qui disait: « Nous ne pouvons entrer dans le sérieux de la vie. Nous ne pouvons prendre l'humanité à sa véritable hauteur. Nous ne pouvons être fidèles au réalisme de l'histoire qu'en croyant et en étant certain que Dieu est le premier à être frappé de toutes les douleurs. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on se rend compte de la grande souffrance que nous imposons à Dieu par notre manque d'amour, si nous nous rendons compte que Dieu est le premier à vivre toutes les agonies et toutes les morts, bien que c'est à ce moment-là que se produit dans nos cœurs ce retournement salutaire, ce retournement qui nous sauve et qui nous délivre de nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons oublier nos douleurs à nous autres. C'est à ce moment-là qu'on arrive à surmonter nos souffrances. C'est à ce moment-là qu'on arrive à échapper pour le restant de nos jours à notre désespoir. Parce que nous sommes chargés de l'agonie de Dieu, de sa douleur. Souvenez-vous de cette parole qui est sortie de la bouche même de Dieu. « Ô vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. » Vous avez dans les yeux ce crucifix, devant vous peut-être. Vous voyez ce Christ comme un grand peseur d'âme, dit Maurice Zundel. Eh bien, c'est par là que le scandale du monde est surmonté, car nous sommes certains que derrière la douleur du monde, derrière tous les abandons puis tous les désespoirs, il y a cet amour qui vit ces douleurs-là avec nous, cet amour qui n'est que l'amour, qui n'est rien d'autre que l'amour, et qui est blessé avant nous de tout ce qui peut nous atteindre. Et c'est là le suprême message de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce message dépasse de beaucoup l'image de la petite fleur puis de la petite pluie de rose, qui est une belle image quand même et qui est bien dangereuse, car elle tourne au sentimentalisme dans le cœur de trop de croyants. Parce que là, nous sommes au cœur de l'Évangile. J'ai la certitude que dans la mesure où nous compatirons à toute cette tragédie de Dieu, cette tragédie divine, dans la mesure où nous allons souffrir des blessures de Dieu dans l'humanité, alors nous serons beaucoup plus aptes à guérir les blessures humaines. N'oubliez pas ce que dit le Christ. Chaque fois que vous avez fait quelque chose au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il souffre dans tous ceux qui souffrent. Car finalement, ce sont les mêmes blessures humaines et les mêmes blessures divines. Et si le scandale du mal est si grand, si la détresse humaine est si infinie, c'est parce qu'au fond, c'est toujours en nous la détresse d'un Dieu qui est tout amour, puis qui est déchiré tant que ne règne pas cette joie qui est la fin de tout. Jésus, Dieu, veut la joie. Mais il faut passer par la mort, hein? Nous sommes tous mortels. Or, la mort a appelé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et ça l'a déçue. On finit par croire qu'elle exagère. On ne sait pas combien son côté lui fait mal quand elle se meurt. Elle a les yeux bandés, elle ignore où la Providence va l'amener. Mais ça a peu d'importance, et ce sera selon le bon plaisir de Dieu, comme elle dit. Et à la fin de juin 1897, l'épreuve d'âme, comme elle dit, empire. Mon âme, dit-elle, se sent bien exilée. Le ciel est fermé pour moi. Et dans ce désert, elle garde une raison très claire, très ferme. Elle oublie si peu ses devoirs qu'elle reprend sévèrement un jour une novice, non par agacement, parce que mais la souffrance, évidemment, pourrait l'excuser, mais parce qu'elle le mérite, comme elle dit. C'est une singulière contradiction, c'est dans le même temps qu'elle va dire « Vous n'aurez pas de peine de ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. » Et sans illusion sur l'état de sa sœur, mère Agnès de Jésus, qui est la supérieure, qui est la sœur de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, vous savez, elles étaient quatre sœurs entrées dans le même Carmel, je le dis pour les gens qui pourraient l'ignorer, hein? Dans le même Carmel, c'est-à-dire dans le même monastère de Carmélite, on en a un à Montréal, ici, près de la rue Laurier, près du métro Laurier, même sorte de sœur. Et alors donc, mère Agnès, sa sœur aînée, qui est supérieure du couvent, avait confié à la mère prieure elle avait confié à la mère prieure qu'elle possédait un cahier où Thérèse avait consigné des souvenirs susceptibles un jour d'intéresser les religieuses, à condition du moins qu'elle les puisse les compléter puis les arranger. Vous savez que les manuscrits de Sainte Thérèse ont été malheureusement retouchés. Mais on en a maintenant les copies définitives, même manuscrites, c'est des photocopies des manuscrits tels que Thérèse les a écrits. Alors c'est très intéressant à consulter. On a vraiment la pensée de Thérèse. Et puis, Mère Marie Gonzague, la prieure, avait favorablement accueilli la suggestion. Elle a donné l'ordre à la malade de reprendre la plume. Elle dit, sur quel sujet voulez-vous écrire? Elle dit, sur la charité et sur les novices. C'est ça que Sainte Thérèse voulait faire. Et puis, c'est sous les marronniers du jardin, là où on l'a installé, quand il faisait beau, dans un fauteuil roulant, elle écrivait en espaçant les lignes, puis en grossissant les lettres, ce qui lui venait à l'esprit. C'était son testament. Il devait composer plus tard les chapitres 9e et 10e de son Histoire d'une âme, ce grand classique qui a été lu dans toutes les langues du monde, presque, et qui a couvert la terre. L'Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Lisez la version récente dans les textes authentiques. En toute humilité de cœur, en tout pardon, elle s'adressait à la mère prière. Par qu'elle avait tant souffert pourtant. Elle la remerciait de ses sévérités. Elle lui avouait sa seule ambition, c'était celle de devenir une sainte. Tu sais, la disproportion entre ses forces puis l'objet de son vœu, c'était l'impossibilité d'y atteindre par la grandeur et la nécessité d'utiliser quoi? La petitesse. Être comme une petite enfant. Si vous ne devenez des enfants, c'est Jésus qui le dit. Il nous demande de redevenir de petits enfants. D'être simple. Il y a des gens qui me reprochent ma simplicité en disant que je suis prétentieux. C'est vrai, je suis prétentieux, mais je veux pas. Puisqu'on était au siècle des inventions, alors elle voulait se hausser par l'ascenseur de Dieu. Elle parle d'ascenseur. Une partie de son récit nous est déjà connue. C'est l'histoire de sa maladie. Mais il éclaire dans ses profondeurs l'état actuel de son âme. C'est cette suprême épreuve que ses propos nous laissaient entrevoir. Et elle avait toujours aspiré à ce monde nouveau, cette terre promise. Oui, cette terre promise où nous allons aborder un jour. Ça s'en vient. Si nous sommes fidèles, évidemment. Si nous sommes patients. Oh, la patience. Si nous sommes humiliés, ça, oui, on connaît ça. Et si nous sommes pleins d'amour, bien difficile. Un sourire fugitif de la Vierge Marie lui avait même permis de l'entrevoir. Vous savez, je vous ai raconté ça hier. Puis, le ciel s'était refermé. Plus tard, il y a eu un trait fulgurant en plein cœur qui lui avait fait éprouver un moment un peu de l'extase d'amour qu'il partage des saints. C'est le mais le feu s'était éteint, ou du moins, elle pouvait quand même un peu s'en souvenir. Ça la consolait. Sa foi était assez ardente quand même, assez sûre, pour lui permettre de jouir du ciel sans le voir, sans en recevoir aucune lumière, aucune chaleur, aucune douceur. C'était la nuit sombre, la nuit obscure, comme on l'appelle dans le langage mystique. Et voici que sa foi elle-même, s'est voilée même. Il y a des brouillards qui environnent sa foi. Est-ce que ça vous arrive? Mais ça lui c'est arrivé à Sainte Thérèse. Et tout ça, ces brouillards pénètrent dans son âme, enveloppent son âme de telle sorte que qu'il lui est même plus possible de retrouver en elle l'image, comme elle dit, de sa douce patrie. Son cœur, comme elle dit, est fatigué de ténèbres, voudrait se reposer. Voudrait se reposer, comme elle dit, dans le souvenir fortifiant d'une vie future, éternelle. Mais les ténèbres, elle l'écrit, empruntent la voix des impies, puis lui répondent railleusement, « Ah, tu rêves, Thérèse, de la lumière, une patrie embaumée, la possession éternelle du Créateur. Avance, avance, la mort te donnera une nuit plus profonde encore. » Mais ce sera, comme elle dit, la nuit du néant. Et sœur Thérèse s'arrête, car elle est au bord du blasphème. Mais ah, que Dieu lui pardonne. Sans la jouissance de la foi, elle en fait chaque jour les œuvres. Elle dit, j'ai prononcé, dit-elle, plus d'actes de foi depuis un an que pendant toute ma vie. Alors elle fuit le tentateur, elle court à Jésus. Elle est prête à verser son sang pour confesser la foi qui se refuse. Puis elle affirme même qu'elle est heureuse. Puisqu'il est son bon plaisir, puisque tel est son bon plaisir, hein, de ne pouvoir contempler sur la terre le beau ciel qui l'attend, même avec les yeux de la foi. C'est tout obscur, c'est comme fini, hein. Elle n'exagère pas la nuit de son âme, ce n'est plus un voile, c'est un mur qui couvre le firmament étoilé, il n'y en a plus, il n'y a plus d'étoiles. Pourtant, elle reste dans la paix, hein. Elle ne croit plus que par volonté, mais elle croit. Elle a la foi. Et son amour loin de diminuer, il augmente, son espérance aussi. On ne peut pas analyser tout ça. C'est très compliqué. Même non content de surmonter son antipathie naturelle, celle-ci s'applique, cette chère Thérèse, à faire pour une sœur qu'elle n'aime pas, ce qu'elle aurait fait pour la personne qu'elle aimerait le plus. C'est pas facile. Elle priait pour elle chaque fois qu'elle la rencontrait, cette sœur qu'elle n'aimait pas et qui lui déplaisait beaucoup. Elle tâchait de lui rendre le plus petit service, le plus grand nombre même. Et quand celle-ci la contrariait, elle détournait la conversation. Ma sœur Thérèse d'Enfant Jésus, voudriez-vous me confier ce qui vous attire tant vers moi? Demande cette sœur. Alors on peut imaginer que sœur Thérèse a trouvé le moyen, sans mentir, de satisfaire sa curiosité avec à propos et avec délicatesse. Elle ne pouvait lui avouer que ce qui la portait vers elle, c'était Jésus en elle, uniquement Jésus. C'est pas facile de se rappeler que Jésus est dans ceux qui nous déplaisent et qui nous martyrisent et qui nous dépriment et qui nous enlèvent parfois le goût de faire quoi que ce soit. Ces jugements toujours qui nous critiquent, c'est très dur. Peut-on parler de petites actions, de petits sacrifices, d'une petite voix devant ce grand héroïsme dont elle fait preuve? On pourrait citer des centaines et des milliers de ces gestes qui sont du grand héroïsme. C'est une petite sainte et une grande héroïne. Qualifiée de la plus grande sainte des temps modernes, cette sainte qui est morte à 24 ans, il y a 100 ans aujourd'hui, on peut dire que, dans un sens, sa façon de vivre simplement dans les petites choses en a fait une petite martyre et peut-être une grande. Disons de toute façon que la petite voie, comme elle l'appelle, le petit chemin, le petit sentier vers la rencontre de Dieu, vers la sainteté, consiste à poser de grandes actions à l'occasion de petites choses. Elle court comme à flanc de montagne, disons, jusqu'au plus haute cime de l'amour, et vous connaissez ces dessins de la montée du Carmel, où il y a des sentiers qui montent jusqu'en haut, sur le mont du Carmel. Sainte Thérèse nous explique qu'elle fait face à la désertion. Lorsque l'âme se sent sur le point de fléchir, c'est facile de déserter, hein, de se dire « je m'assois, j'en ai marre, je finis, je ne fais plus ce que je fais, je démissionne ». Mais il faut renoncer à tout ce qu'on possède en propre, même les biens intellectuels, même les biens spirituels. Parce qu'il convient, selon la pensée de Thérèse d'Enfant Jésus, selon la pensée chrétienne, il convient de reporter tous ses mérites sur les autres âmes. La patience dans les progrès aussi. Car Dieu ne nous dispense sa lumière que par degrés. Et c'est Dieu qui accomplit en nous ce travail qu'on lui laisse faire en l'aimant. Il faut sacrifier même à un moment donné toute joie, même divine. Et sœur Thérèse de l'Enfant Jésus est comblée. Elle n'a plus rien dans cette nuit qui précède sa mort. Elle parle longuement et humblement de ses novices, des humiliations puis des consolations, des leçons même qu'elle leur doit. Elle écrit à ce sujet. Elle parle aussi de ses deux frères missionnaires. Elle les appelle frères. Ce sont deux prêtres qui se sont confiés à elle. Elle les a pris en charge dans son cœur. Elle parle aussi de la suprême révélation qu'elle a reçue du ciel au sujet de l'apostolat. Parce que le véritable apôtre, dit-elle, ne se mettra pas en peine de tel ou tel moyen de sauver les âmes. Car, elle dit, s'il aime vraiment Dieu, l'apôtre, s'il court, comme dit le cantique des cantiques, à l'odeur de ses parfums, toutes les âmes le suivront car l'amour attire l'amour. Toute l'histoire de la rédemption, c'est une histoire d'amour. L'amour attire l'amour. Et l'amour que Jésus, Dieu, nous porte, attire notre amour et nous permet avec lui de plonger dans l'unité de l'Esprit Saint, au cœur même de l'amour de notre Père. Un seul Dieu, Père, Fils et Esprit, qui est tout amour. Au début de juillet 1897, Sainte Thérèse a dû interrompre son mémoire, son texte. Elle n'avait plus la force de tenir une plume, elle ne trouvait plus ses idées ni ses mots. Elle a l'impression que les saints, même, l'abandonnent. Elle a de nouveaux crachements de sang, qui exigent son transport à l'infirmerie, dans le lit au rideau blanc, où elle va rendre l'âme. Elle fait joyeusement le sacrifice de sa cellule, car une moniale est très attachée à sa cellule. Quand on est moine, une cellule, c'est la douce rencontre de Dieu. Quand on se retire comme ça, il y a une joie extraordinaire. Elle avait donc quelque chose à donner encore finalement, sa cellule. Et pour recevoir l'extrême onction, comme elle fouillait sa conscience, arrivée au péché des sens, là, elle s'est accusée de s'être servie en voyage d'un flacon d'eau de Cologne avec un plaisir trop naturel. Et je vous avais parlé un peu hier de sa vanité, hein, quand elle était enfant, puis qu'on la félicitait dans la rue. Et c'était peut-être un petit peu pourquoi elle souffrait tant, elle avait cette petite faute sur sa conscience. Il dit qu'il y avait encore des religieuses pour ne pas la croire en danger de mort. Quand la supérieure est venue la voir, elle lui a présenté un visage si reposé et si gentil, que le supérieur, c'était le supérieur qui est venu la voir, il a trouvé que c'était un peu vite là, pour lui administrer les derniers sacrements. Le prêtre voulait pas. Oh, celle-là, un peu fâchée, Thérèse. Elle a fait des blagues là-dessus. Alors, on continuait de l'interroger. Si elle craignait la damnation, puis elle disait, les petits-enfants ne se damnent pas. En somme, elle était devenue une petite enfant. Si elles se réjouissaient du profit certain que les âmes tiraient plus tard de ces cahiers, elles disaient, on verra bien que tout vient du bon Dieu, tout vient du bon Dieu, tout vient de Dieu. Rien ne nous appartient, ni notre intelligence, ni nos yeux, ni notre bouche, ni notre cœur. Rien ne nous appartient, tout nous est prêté pour servir sa gloire. Puis elle dit, on verra bien que tout vient du bon Dieu, et ce que j'en aurai de gloire ne m'appartiendra pas. Elle a donc raison, rien ne nous appartient, on meurt et on est oublié en dedans de 24 heures, de toute façon. Elle acceptait même qu'on les jette au feu. Que feriez-vous, lui demandait-on, si vous deviez recommencer la vie? Puis elle a répondu simplement, il me semble que je ferai comme j'ai fait. Tout simplement. Est-ce que c'est du contentement de soi? Est-ce que c'est son orgueil qui est incurable, comme on pourrait l'accuser, puis comme des sœurs l'accusaient? C'est si facile d'accuser les autres, hein? Non. C'est une lumière qu'elle a. Parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Son âme est divisée, broyée, mais laisse passer des lueurs. Des lueurs qui ne sont pas d'elle et qui viennent de Dieu. C'est ainsi qu'elle déclare avec un aplomb qui surprend, il faudra que le bon Dieu fasse toutes mes volontés au ciel, parce que je n'ai jamais fait ma volonté sur la terre. On dira, quelle prétention, mais non, cessons donc de mal juger. Elle le dit avec une grande simplicité, et je la trouve délicieuse quand elle dit ces choses-là. Mais ne jamais faire sa volonté, sans l'ombre d'une contrainte matérielle. N'est-ce pas le triomphe suprême de la volonté? Elle va aller plus loin dans la suffisance. Elle dit, on dit, vous nous regarderez d'en haut? Et elle dit, non, je descendrai. Est-ce que c'est de la suffisance, de la prétention, de l'orgueil, de la vanité, etc., etc.? Mais non, c'est de la sainteté. On se trouve à la veille, donc, de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Elle n'est plus qu'un squelette vivant. Elle dit que j'éprouve de joie à me voir me détruire. Cependant, elle va pouvoir communier le lendemain. Si elle s'en allait après la communion, y songe-t-on? Et puis sa petite voix, elle dit, j'en sortirai pour mourir. Le 17 juillet 1897, toujours la lumière grandit. Elle est comme une conquérante, elle est élue entre toutes par Dieu. Elle prend conscience de son élection et des pouvoirs que Dieu lui délègue. Elle dit, je sens que ma mission va commencer. Oh. Je vois qu'il y a des gens qui vont dire, quelle prétention. Pas du tout. Elle est simple. Elle dit, je sens que ma mission va commencer. Si mes désirs sont exaucés, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je ne pourrai prendre aucun repos tant qu'il y aura des âmes à sauver. Quelle prophétie dans cette petite bouche. Que je l'aime, cette Sainte Thérèse. Elle ne se réjouit pas d'être affranchie, on peut dire, des peines de la vie. Elle est comme un soldat. Elle appartenait à une famille de soldats. Je vous ai raconté ça vendredi et lundi, en racontant la vie de sa mère et de son père. Et c'est pas cela qui l'attire. Elle dit, aimer, être aimé, et revenir sur la terre pour faire aimer l'amour. C'est le cœur de tout son message. Écoutez bien, et essayez de mettre ça dans votre cœur. J'essaie de faire comprendre ça à bien des gens, des fois dans des conférences, comme dimanche soir, j'ai de la misère. Aimer, être aimé par Dieu, et revenir sur la terre pour faire aimer l'amour. Faire aimer l'amour. Pas dire qu'il nous envoie des épreuves, il nous torture, il nous tue, il nous enlève nos enfants, et qu'il va nous punir, et qu'il va ravager la terre si on se convertit pas, etc. Toute cette doctrine qui me blesse au plus profond, moi. C'est comme si on insujuriait mon Père. Dieu est notre Père, il est tout amour. Alors, dans cette attente, dans cette certitude, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus continue à répandre des trésors de sa charité. Ou elle est peut-être privée de foi, mais elle pratique sa charité sur ses supérieurs, sur ses compagnes, sur ses filles. parce qu'elle a été maîtresse et novice. Hein. Quand c'est jour de lessive, qu'il fait très chaud, soit, elle va souffrir beaucoup, afin que ses souffrances les soulagent, c'est-à-dire que son amour transperce le cœur des autres. À la fin de juillet, comme les hémorragies redoublent, elle reçoit enfin l'extrême onction, puis elle demande pardon à la communauté. On lui donne la Sainte Communion, le Saint Viatique. Ce lui sera encore une occasion de charité. Puis là, il y a la visite de plusieurs sœurs qui interrompent fâcheusement son action de grâce. Lorsque notre Seigneur se retirait pour prier dans la solitude, des foules le suivaient. Il ne les renvoyait pas, leur fait pareil. Sœur Thérèse fait exactement la même chose, et elle quittera son Dieu pour recevoir les religieuses qui l'importunent. On a cru devoir apporter devant elle une petite paillasse destinée à recevoir sa dépouille après sa mort. Elle a eu un éclat de gaieté. Son corps l'avait toujours gêné, mais elle se trouvait mal à l'aise dedans, alors il était grand temps d'en sortir. Et pendant 2 mois encore, son corps va la torturer, liguer contre elle, on peut dire, avec son âme. Chère petite Thérèse. Et je lisais hier dans Julienne de Norwich, dont je vous ai déjà parlé. Ce petit texte sur l'amour, où ça date il y a bien longtemps, Julienne de Norwich est morte vers 1416 à peu près, donc il y a plus de 500 ans. Et elle dit, nous nous laissons aller à beaucoup d'actions mauvaises, que nous devrions éviter et nous nous gardons d'accomplir un grand nombre d'œuvres bonnes qu'il nous faudrait faire. Aussi méritons-nous souffrance, blâme et colère. Pourtant, je vis avec certitude que Dieu n'a jamais été irrité et ne le sera jamais, car il est Dieu, il est bon, il est vérité, il est amour, il est paix. Sa puissance, sa sagesse et son unité ne permettent pas qu'il soit jamais courroucé. Je vis en vérité qu'il est contraire à sa puissance d'être en colère, contraire à sa sagesse, contraire à sa bonté. Dieu est cette bonté qui ne peut jamais être courroucée, car il n'est que bonté. Notre âme est unie à cette inaltérable bonté. Or, c'est l'essentiel de l'enseignement de Thérèse, l'enfant Jésus. C'est l'amour seul qui compte. Pouvez-vous procurer un petit livre qui vient de paraître dans la collection Point de repère sur Thérèse, aux éditions de l'Emmanuel, de la communauté de l'Emmanuel. C'est très beau. Il y a un article de Guy Gaucher, Monseigneur Guy Gaucher, évêque auxiliaire de Bayeux-Lisieux, une vie tout ordinaire. Au chapitre 4, c'est écrit « Seul compte l'amour ». On peut lire aussi, pour connaître un peu mieux la mort de Thérèse, la passion de Thérèse de Lisieux par Monseigneur Guy Gaucher, mais il n'était à cette époque que libraire. Oui, il était libraire dans ce temps-là à Orléans. Il travaillait dans une librairie à Orléans. Et donc ça fait longtemps que c'était publié, en 1973, aux éditions du Cerge et d'Éclide Brouwer. Il raconte les derniers mois, du 4 avril au 30 septembre 1897, de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Puis il y a aussi les derniers entretiens en 2 volumes, gros volumes, publiés aux éditions du Cerf et chez Déclic Brouwer, aussi les derniers entretiens de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ce sont ces dernières réflexions. Alors on va suivre le douloureux chemin qui mène Thérèse vers Dieu. La rencontre finale, cette grande naissance qu'on appelle la mort. Elle a des vomissements, des suffocations, des évanouissements, mais elle résiste. Se meurt-elle de ne pas mourir, comme Sainte Thérèse d'Avila? C'est le cri de la nature, ça. Mais il y a la grâce qui murmure, au fond de son cœur, à la volonté de Dieu. Elle a toujours cherché la volonté de Dieu, tout simplement, dans toute chose, dans la joie. Puis, au creux des souffrances et malheurs, cette volonté qu'il a qu'on réponde à son amour. Oh, elle ne se croit pas une grande sainte. Dieu a bien voulu mettre en elle des choses qui font puis vont faire du bien, puis à elle-même et aux autres, surtout aux autres. Il n'y a pas lieu de chercher plus loin. Sa joie à Sainte-Thérèse est de se sentir imparfaite. Elle s'inquiète pourtant de savoir si elle possède l'humilité du cœur. Pour en avoir la certitude, elle voudrait qu'on puisse l'humilier puis qu'on la maltraite encore. Alors, elle passe la nuit du 4 au 5 août, donc moins de 2 mois avant sa mort, à contempler la Sainte Face. Est-ce que vous contemplez chez vous la Sainte Face? Avez-vous la Sainte Face? Elle, c'est la Sainte Face de M. Dupont. J'en ai une ici à côté de moi, qui date de cette époque, une belle Sainte Face, mais complètement différente, on peut dire, de la Sainte Face que l'on connaît grâce à la photographie. C'est un dessin. Alors, encore un jour à vivre, puis dans la même obscurité encore, hein, toujours au début d'août, après avoir contemplé la Sainte Face, elle ne reçoit plus de lumière que pour voir son petit néant. Mais son petit néant, est-ce qu'il n'est pas content de lui? C'est la question qu'elle se pose. Et par une délicate attention, on a placé auprès d'elle sa sœur Céline, sœur Geneviève de la Sainte-Face, comme infirmière en second. Et Thérèse, tout si fort qu'elle craint de la réveiller. C'est bien son seul grief contre la toux qui la déchire. Là, le 6 août, son oppression devient telle qu'elle ne peut plus articuler un mot. Elle dit, si l'on savait, si je n'aimais pas le bon Dieu tout à coup, ah, on la croit patiente. Mais non, elle n'a jamais eu une seconde de patience dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle dit que ce n'était pas la sienne. Ce n'était pas sa patience à elle. C'est la patience de Jésus. Elle ne cache pas l'atrocité de sa souffrance. Ici, au moins, elle souffrait bien, dit-elle. Le 19 août, elle reçoit pour la dernière fois la très sainte communion. Elle reçoit pour la dernière fois son Dieu le 19 août, plus d'un mois avant de mourir. Le seul bruit du miséréré, vous savez, le psaume 50, qui est récité en sourdine, lui cause une faiblesse. Elle sent qu'elle perd même ses idées. Elle supplie la Sainte Vierge de lui prendre la tête entre ses mains. Elle a tant de douleurs. Il n'y a plus une partie de son corps qui ne la torture. Elle réclame des prières. Mais à peine sont-elles dites qu'elle en refuse l'efficacité et qu'elle les reporte sur les pécheurs. Ceux-ci en ont plus besoin qu'elle, crottin. Quand le martyr passe les bornes, oh, elle cherche à oublier, puis elle cherche à reprendre le fruit de ses prières qu'on récite pour elle. Elle a un peu honte. Elle est comme une enfant. Mais de quoi se plaint-elle? Le bon Dieu ne lui donne-t-il pas juste ce qu'elle peut porter, comme elle écrit? Alors la preuve, la meilleure, c'est qu'elle le porte. Et à partir du 25 août, elle sombre tout à coup dans un état d'angoisse et d'agitation inexprimable. Oh, comme il faut prier pour les agonisants, si l'on savait. Souvenez-vous de ça, hein? Oh, comme il faut prier pour les agonisants, si l'on savait. Et elle dit encore, comme je me plains, pourtant, je ne voudrais pas moins souffrir. Et la soif s'ajoute à ces mots. Jésus a dit, j'ai soif. On lui offre de l'eau glacée. Oh, j'en ai bien envie. Non, le nécessaire seulement. Je n'ai pas la langue assez desséchée. Elle est encore prête à souffrir pour se mieux dépouiller d'elle-même, pour laisser toute la place à Dieu, qui va venir la prendre totalement. C'est ça, se mortifier. C'est ça, accepter la souffrance. C'est accepter d'être dépouillé. Dépouillé. Par amour. 2 jours après, elle désigne dans le jardin, sous les marronniers, un trou d'ombre. Elle dit, c'est dans un trou comme cela que je suis. Pour l'âme et pour le corps. Quelle ténèbre, quelle ténèbre. Mais j'y suis dans la paix. Et à peine si elle à la force de faire le signe de la croix. Et elle murmure, « Mon Dieu, ayez pitié de moi. Je n'ai plus que cela à dire. Et encore un mois de torture pourtant, et Dieu n'aura pas pitié, semble-t-il. Mais c'est pas Dieu qui la torture, voyons, voyons. » Un jour anniversaire de sa profession, c'est le 8 septembre, donc 1897, une personne amie lui envoie une gerbe de fleurs des champs, c'est si beau, hein. Et un petit rouge-gorge, pénétrant dans l'infirmerie, sautille sur son lit. Le 11 septembre, elle tresse deux couronnes de bleuets. Ce sont des fleurs, qu'on appelle des bleuets en France, pour mettre aux pieds de la Vierge au sourire. Le 13 septembre, elle reçoit des violettes. Est-ce qu'elle avait le droit de les respirer? On savait qu'elle aimait les fleurs. Hein? Le lendemain, on lui fait don d'une belle rose, alors elle l'effeuille sur son crucifix, qu'elle tient toujours serré contre elle. C'est à cette occasion qu'elle a encore cette parole prophétique. Ramassez bien ces pétales, mes petites sœurs. Ils vous serviront à faire des plaisirs plus tard. N'en perdez aucun. Est-ce qu'il y a de la vanité là-dedans? Non. L'humilité et la certitude que Dieu l'habite. Elle ajoute, « Ah, maintenant j'en ai l'espoir. Mon exil sera court. » Elle a hâte de rencontrer son Dieu. Oui, son heure approche. Un soir, une tourterelle étrangère qui vient se poser sur la fenêtre en roucoulant, et les deux sœurs, ces deux sœurs qui sont religieuses, Pauline et Céline, songent à la parole du cantique. Le chant de la tourterelle s'est fait entendre. « Lève-toi, ma bien-aimée, ma colombe, et viens, car l'hiver est passé. » Vous connaissez ça dans le Cantique des Cantiques, vous avez lu ça, hein, c'est si beau. Et c'était là les attentions, on peut dire les délicatesses extérieures de Dieu envers cette sainte. Juste de quoi lui permettre un sourire encore, hein. Mais la maladie qui est implacable continue de, on peut dire, de mâcher sa proie. Mais surtout, c'est le martyr spirituel qui poursuit son œuvre en dessous. Hein. Quelqu'un lui dit, c'est affreux ce que vous souffrez. Elle dit, non, ce n'est pas affreux. Une petite victime d'amour ne peut pas trouver affreux ce que son époux lui envoie, car son époux lui envoie quoi? Un amour encore plus grand pour lutter et persévérer. Comme une novice lui disait encore, vous êtes un ange de douceur. Oh non, je ne suis pas un ange. Les anges ne peuvent pas souffrir et ne sont pas aussi heureux que moi. Car elle sait qu'au fond de sa souffrance, Dieu l'accompagne. C'est ça sa joie. Et le matin du 29 septembre, sœur Thérèse râlait. Alors la mère Marie de Gonzague vient la voir. Ma mère, est-ce que c'est l'agonie? Comment vais-je faire pour mourir? Jamais je ne vais savoir mourir. Alors sa sœur, Agnès de Jésus, lui lit l'office de Saint-Michel-Archange. Hein, le 29 septembre, c'est la fête des Saints-Archanges, et les prières des agonisants aussi, elle lui lit ça. Alors le docteur confirme à la mère prieure ce qu'elle pressent. « Est-ce aujourd'hui, ma mère? » « Oui, » dit la prieure. Comme les religieuses présentes s'exclament, « Le bon Dieu va être bien heureux aujourd'hui. » Alors elle répond, « Moi aussi. » Sa joie passe. L'horreur de la souffrance, la terreur de la mort la secoue toute la journée. Elle s'obstine à ne pas mourir. Alors la dernière nuit est atroce. Et Sainte Thérèse, si malade, joint les mains. Elle les soulève vers la Vierge au sourire. Puis elle soupire plaintivement. « Oui, mon Dieu, oui, mon Dieu, oui, mon Dieu. Je veux bien tout. » Elle avait atteint la perfection. Le mot et le geste d'avidité de son enfance exigeante, là. L'enfance insatiable qu'elle avait, elle les retournait contre elle-même, contre son amour propre, contre sa volonté propre. Elle choisissait toute la souffrance, le broiement de la chair, la lâcheté du cœur, le doute de l'esprit, sans aucune arrière-pensée de récompense. Hein. Elle touchait au but suprême. Quoi? Il n'y avait plus rien en elle, je l'ai dit, je le répète, il n'y avait plus rien en elle qui ne fût pas un mal, c'est-à-dire un néant. Et ça donnait toute la place à Dieu. La maison était vide, toute la place libre pour la grâce, pour la présence de Dieu qu'elle aime tellement, même dans la nuit. Et en vain, elle prie. C'est l'agonie toute pure, sans aucun mélange de consolation. Et l'agonie dure encore une journée. On la voit remuer, se dresser sur son lit. Elle s'accroche de toutes ses forces à la vie terrestre. Ah, j'en ai peut-être encore pour des mois. Demain, ce sera encore pire.
Eh bien, tant mieux. Puis elle retombe. Et c'est là l'agonie. Qu'est-ce donc que la mort? Le calice est plein jusqu'au bord. Oh, mes petites sœurs, priez pour moi. Oh, mon Dieu, vous qui êtes si bon. Oh, oui, vous êtes bon, je le sais. Car elle avait besoin de se le dire pour se convaincre, hein, et vers 3 heures de l'après-midi, elle a étendu les bras en croix, puis elle a contemplé l'image de Notre-Dame du Mont-Carmel que l'on avait posée sur ses genoux, puis elle a dit à la mère prieure, « Présentez-moi bien vite à la Sainte Vierge. Préparez-moi à bien mourir. » Écoutons encore un peu de musique pour Thérèse de Jacques Burtin dans la collection Résonance et c'est distribué par le studio SM. Je vous ai lu tout à l'heure un texte de Julienne de Norwich, morte vers 1416, sur l'amour de Dieu. C'est extrait d'un livre qui vient tout juste de paraître il y a quelques mois ou quelques semaines, que je vous recommande fortement. Florilège de la spiritualité chrétienne. Ce sont des textes de 100 auteurs, d'Ignace d'Antioche, donc au tout début de l'Église, jusqu'à Maurice Zundel. Ce sont des textes réunis et présentés par le frère Philippe de Lignerolles, qui est un moine d'Encalcate, cette abbaye bénédictine du sud de la France. C'est un très, très beau livre, il y a un texte de Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus. « Je le sais, ô mon Dieu, » un long texte de 2 pages, je ne vous en lis qu'un passage à la fin. « Je le sais, ô mon Dieu, vous abaissez l'âme orgueilleuse, mais à celle qui s'humilie, vous donnez une éternité de gloire. Je veux donc me mettre au dernier rang, partager vos humiliations, afin d'avoir part avec vous dans le royaume des cieux. Or, Thérèse approche de la mort. Elle n'en peut plus. C'est très dur. Mais elle dit, je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour. Mais un moment après, comme une réponse cruelle au sublime défi qu'elle vient de lancer à Mère Agnès, à la prière, à Mère Louise Gonzague, le mal s'exaspère si fort qu'il lui arrache cette plainte, « Je n'aurais jamais cru qu'il fût possible de tant souffrir. » Elle avait pris sur elle les péchés de tant d'âmes, cela expliquait tout sans doute. « Je ne peux pas respirer, disait-elle, je ne peux pas mourir. » Puis entre la vie et la mort, elle acceptait pourtant, elle renouvelait son offrande, elle dit, « Je veux bien encore me dépouiller, souffrir. » Alors les religieuses s'étaient retirées, à l'exception de Mère Agnès. Et vers 5 heures, celle-ci vit le visage de sa sœur changer subitement. Alors elle a fait tinter la cloche d'agonie. Vous savez, un petit coup comme ça, éloigné l'un de l'autre. On entend ça des fois dans des couvents. le glas. La communauté tout entière pénètre dans l'infirmerie. Alors sœur Thérèse sourit à toutes les sœurs. Combien de sœurs? Un peu plus de 20, il n'y en a jamais plus que ça dans un carmel. Puis elle fixe les yeux sur son crucifix. Elle a le visage tout rougi, pourpre. Elle a surtout les mains violettes. Puis elle a les pieds glacés. Puis elle est ruisselante de sueur. Elle tremble de tout son corps. Elle laisse percer de petits cris involontaires. Puis elle soutient le dernier combat. Encore 2 heures. À 6 heures, l'angélus sonne. Alors sainte Thérèse lève des yeux suppliants vers la statue de la Sainte Vierge. C'est la statue de la Vierge miraculeuse, vous vous souvenez. Mais l'agonie se prolonge, alors la mère prieure, vers 7 heures, renvoie la communauté. Ma mère, n'est-ce pas encore l'agonie? Eh bien, allons, allons, je ne voudrais pas moins longtemps souffrir. Et reportant ses yeux sur son crucifix, elle a pu dire encore, « Oh, je l'aime. Mon Dieu, je vous aime. » Et dans l'instant, sa tête, un peu penchée du côté droit, tombe doucement en arrière. On la croit morte. La cloche tinte de nouveau. Alors la mère prieure ordonne, « Ouvrez toutes les portes !» Et là, la communauté rentre. Tandis que l'on s'agenouille, le visage de sœur Thérèse a repris le teint de lisse qu'elle avait en pleine santé. Ses yeux fixes, mais encore vivants, regardent le ciel à travers les murs, on dirait. Ses yeux rayonnent d'une espèce de bonheur qui n'est pas de cette terre. C'est Mère Agnès qui dit, elle faisait certains mouvements de la tête comme si quelqu'un, à plusieurs reprises, l'aurait blessé d'un trait d'amour. Il s'agissait bien d'une extase. Et celle-ci a duré le temps, disons, d'un credo, d'un « Je crois en Dieu ». Puis sainte Thérèse, l'enfant Jésus, a refermé ses yeux pleins de lumière. Et là, elle a rendu le dernier soupir. L'amour qui est Dieu, Père, Fils et Esprit, un seul Dieu, avait pour un moment pris possession de son corps avant de prendre sa belle âme. Elle a gardé au front un reflet du ciel qu'elle avait entrevu. Et ainsi est morte Thérèse de Lisieux. Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, de son vrai nom de religion. Au soir du 30 septembre 1897, à 7h20 environ, à l'âge de 24 ans et 9 mois. Comme on lui montrait un jour une de ses photographies, elle avait dit en souriant, « Oui, oui, ça c'est l'enveloppe. Quand verra-t-on la lettre dans l'enveloppe? Oh, je voudrais bien voir la lettre. » Alors enfin, on peut dire qu'elle la connaissait, sa lettre, son âme. La lettre, son âme retouchée, polie et inspirée par lui, Dieu, était sous les yeux de Dieu, puis le Très-Haut faisait lire la lettre aux anges. Si de son scapulaire brun, relevé comme un tablier, elle faisait pleuvoir, selon sa promesse, des roses, ce n'étaient pas des roses de papier, de stuc, de porcelaine ou de marbre, mais des roses vivantes d'un rouge sang ou d'un blanc pur. Couleur de passion, de sacrifice ou d'innocence. Un art qui se respecte hésite à les représenter, on dirait. Sa petite voix était une voix d'héroïsme. C'est l'amour total de Dieu. Et l'abandon total à Dieu dans nos moindres pensées et dans nos moindres actions. Redevenir un enfant. Autour de sa dépouille, quelques-unes ont cru sentir un parfum de lys et de violette. Et une sœur converse qui l'avait traitée assez mal a, dans un élan de repentir, appuyé son front sur ses pieds glacés. Elle a été guérie aussitôt d'une anémie cérébrale rebelle. Mais peu d'amis, en dehors des parents et de quelques prêtres des environs, suivirent le cercueil. par le chemin montant et ombragé qui conduit au champ des morts. Elle a aujourd'hui, en son honneur, une immense basilique à la gloire de Dieu, à Lisieux. Sainte Thérèse a composé de bien belles prières, dont l'une à la Sainte Face. Ô face adorable de Jésus, seule beauté qui ravit mon cœur, daigne imprimer en moi ta divine ressemblance, afin que tu ne puisses regarder l'âme de ta petite épouse sans te contempler toi-même. Ô mon bien-aimé, pour ton amour, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de ton regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de ta bouche. Mais je te supplie de m'embraser de ton amour afin qu'il me consume rapidement et fasse bientôt paraître devant toi Thérèse de la Sainte Face.